L'Amunet, le livre du peuple, section 5. Je vous l'ai dit, votre droit c'est vous, votre vie, votre liberté. Chaque homme n'est-il pas individuellement distinct de tout autre? N'a-t-il pas son existence propre, séparée et indépendante? Ses organes corporels, sa pensée, sa volonté? Il ne serait pas s'il n'était soi et uniquement soi. Or, se conserver, se développer selon ses lois particulières, en harmonie avec les lois universelles, posséder pleinement le nom de Dieu, en jouir sans trouble, voilà le droit, hors duquel nul ordre, nul progrès, nulle existence. Et le droit, dès lors, a pour chacun sa racine dans son être même. Ainsi, le droit, en ce qu'il a de primitif et de radical, est inaliénable. A-t-on jamais imaginé qu'on pût aliéner son être, le donner à autrui, le lui rendre propre? On peut, on doit quelquefois mourir pour son frère, mais on ne peut ni transformer son frère en soi, ni se transformer en son frère. Le droit de se conserver, ou le droit de vivre, implique le droit à tout ce qui est indispensable à l'entretien de la vie. L'auteur de l'univers n'a pas fait l'homme de pires conditions que les animaux. Tous ne sont-ils pas conviés au riche banquet de la nature? Un seul d'entre eux en est-il exclu? Dans l'atome liquide où voyage, comme la baleine dans l'océan, l'insecte imperceptible, la Providence a déposé l'aliment nécessaire à sa subsistance. Et lui aussi puise à la mamelle intarissable de la commune mère sa gouttelette du lait qu'elle distribue, selon la mesure de ses besoins, à chaque créature. Mais l'homme, plus élevé qu'aucune d'elles, a deux sortes de vie, la vie du corps et la vie de l'esprit. Il ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui procède de la bouche de Dieu, c'est-à-dire de la vérité qui nourrit son intelligence. Que serait-il sans la connaissance de la loi religieuse et morale qui l'unit à Dieu et à ses semblables, qui le sépare de la brute par le sublime privilège de la vertu? Éclairé de la lumière qui luit éternellement au sein de l'être infini et qui est lui-même, il découvre ce qui ne passe ni ne change, le vrai immuable, les idées, les modèles à jamais subsistants de tout ce qui est et de tout ce qui peut être. Et si de cette hauteur où il contemple ses propres destinées, qu'aucune durée ne limite, où l'espérance déploie dans l'immensité ses ailes infatigables, où il sent au-dedans de soi une force secrète qui le ravit au-dessus du temps comme un corps léger monte du fond des mers, si de cette hauteur nous redescendons dans l'étroite vallée où s'accomplit la première phase de son existence, que serait-il encore sans la science? Qui, l'instruisant des lois de la nature, la soumet à son empire, en ramène à son usage toutes les productions, l'arme de ses puissances les plus énergiques pour la dompter elle-même et la contraindre d'obéir à ses volontés, dilate enfin de plus en plus la sphère de son action en dilatant indéfiniment celle de son intelligence. Il dit à la terre, fais germer cette plante en ton sein, et la plante y germe pour que son fruit le nourrisse. Il dit au vent, transportez-moi aux extrémités du monde, et les vents dociles le déposent au rivage désiré. Il dit à la vapeur, fais l'œuvre de mes bras, prête-moi ta force si prodigieusement supérieure à la mienne. Et pendant qu'il se repose, cette force aveugle opère avec une régularité merveilleuse ce que sa pensée a conçu. La connaissance donc de la loi religieuse et morale et celle des lois de l'univers, telle est la vie de l'esprit. Et tous ont droit à cette connaissance parce que tous ont le droit de vivre, le droit de se conserver et de se développer. Or, se développer, c'est croître sans obstacle. C'est appliquer librement son activité à tout ce vers quoi la porte l'impulsion interne, dans les limites fixées par l'ordre universel. Et le droit, dès lors essentiellement inséparable de la liberté, se confond avec elle dans son exercice. Nul homme n'appartient à un autre homme. Ne sont-ils pas égaux par nature? Sur quel fondement donc l'un d'eux prétendrait-il s'asservir les autres? Chacun maître de soi peut à son gré disposer de soi. Autrement, au lieu d'être ce que Dieu l'a fait, un être raisonnable, doué de volonté, pouvant agir ou n'agir pas selon sa propre détermination, il devient un pur automate. Or, je vous le demande, est-ce là l'homme? Concevez-vous un être humain privé de raison, ou une raison sans volonté, ou une volonté sans action, ou un acte qui soit réellement de celui qui l'opère, s'il ne dépend pas de lui uniquement? Ainsi, la liberté, c'est le droit, et le droit, c'est la liberté. Avec elle disparaît tout ordre moral. Celui qui ne pense, ne croit, ne fait que ce qu'on lui demande. De quel mérite est-il capable et de quoi répond-il? Il n'existe pour lui ni vrai, ni faux, ni bien, ni mal. Le bien et le mal impliquent un choix, indiquent la liberté, et la liberté soumise aux conditions générales de l'ordre, qui sont celles de l'existence même, à sa limite et sa règle, non dans les prescriptions humaines, mais dans les lois divines. Pour le corps, dans les lois physiques, pour l'esprit, dans les lois de la justice et de la raison. Vous n'avez de maître que Dieu, et sa volonté est que vous soyez libre afin d'être semblable à lui, et de mériter par vos efforts, qu'il aidera d'en haut, d'être un jour pleinement uni à lui. Louange, amour à celui qui a créé l'homme et l'a fait si grand, que les mondes innombrables semés dans l'espace ne sont qu'autant de flambeaux allumés sur sa route, dont le terme, seul lieu de son repos, est la source même de toute vie, de tout bien et de toute perfection.